cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. De tous les secteurs qui ont souffert de la pandémie du Covid-19, le tourisme est probablement celui qui sort de la crise le plus meurtri. En Europe, le tourisme représente 1% du PIB allemand environ, mais 20% de celui de la Croatie. Cet été, les Européens partiront bien en vacances, mais surtout chez eux. Les frontières intra-européennes viennent à peine de rouvrir, et encore pas toutes. Quant à la frontière Schengen, elle est toujours fermée aux touristes asiatiques ou américains. Les grands pays touristiques du Sud ne connaîtront pas l'affluence des années passées. Si tous les acteurs du secteur sont atteints, le modèle de croissance des compagnies aériennes, des tours opérateurs et des croisiéristes est menacé. Le coronavirus va-t-il remettre en cause durablement le tourisme de masse au profit d'un tourisme local plus respectueux de l'environnement ? Ou au contraire, le tourisme d'après finira-t-il à la longue par ressembler au tourisme d'avant ? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Karim Adeli.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission transport et tourisme du Parlement européen. Autant dire que vous suivez ces dossiers de très près. Merci. Voilà. Jean-Louis Barrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'APG. APG en quelques mots.
APG, c'est le premier réseau de services commerciaux aux compagnies aériennes et qui est présent dans 110 pays avec 200 compagnies clientes.
Et dans un grand nombre d'aéroports par définition.
Assez peu dans les aéroports, plutôt en ville.
Jean-Pierre Mas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président des entreprises du voyage. Merci d'être en ligne de Toulouse. Les entreprises du voyage, c'est un syndicat, c'est une entreprise ?
C'est un syndicat professionnel qui regroupe l'ensemble des acteurs du voyage, les agences de voyage, les tours opérateurs, le voyage d'affaires, le tourisme, tout le secteur.
Et à Athènes, nous rejoignons Evgenio Vasilikos. Bonjour. Kalimera, kalispera.
Bonjour à tous.
Vous êtes le secrétaire général de l'Association des hôteliers d'Athènes. Évidemment, merci d'être en ligne d'Athènes. Karim Adeli, s'il faut replacer le secteur du tourisme en Europe, cela représente quoi en termes de PIB et d'emploi ? Alors dans le monde, c'est environ 10% du PIB et 12-13% des emplois en Europe.
Oui, c'est le premier secteur, et même mondial. Vous savez que l'industrie, par exemple, pétrolière ou même l'industrie industrielle, le tourisme, c'est le premier secteur mondial, c'est le premier secteur au niveau européen. En termes de chiffres, c'est important, c'est 12% de l'emploi, 27 millions de salariés. Et en termes de PIB, on dit toujours, c'est 10% du PIB de l'Union européenne. Donc ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui, donc c'est le secteur qui anime un peu cette Europe, surtout dans un moment aussi crucial.
Oui, notamment le 28 juin, où on est tenté de partir en vacances et on verra que ce sera pas comme l'année dernière, en tout cas. Jean-Pierre Mas, de mémoire, le tourisme n'a jamais connu une crise aussi importante. C'est vraiment une crise historique.
Absolument, c'est une crise historique parce qu'elle est mondiale. La progression du tourisme dans le monde est une progression régulière. On est aujourd'hui à 1,5 milliard de touristes internationaux, touristes qui quittent leur pays pour aller dans un autre pays. Pensez qu'en 1980, il y avait moins de 300 millions de touristes, et 1,5 milliard aujourd'hui. Donc on a subi des crises, le printemps arabe par exemple, les crises économiques, les chocs pétroliers, les attentats du 11 septembre, etc. Mais jamais de ce niveau-là.
Jean-Louis Barrault, de loin la plus grande crise que le secteur ait connue, Jean-Pierre Mas vient de le dire, un secteur qui s'était habitué à une croissance régulière depuis des décennies et qui volait de record en record. C'est vrai aussi pour le transport aérien qui grimpait jusqu'au ciel, mais ça s'est arrêté.
Et oui, le transport aérien s'est fracassé sur le mur du Covid. Comme le disait Jean-Pierre Mas, ou Madame Delis, c'est parce que le système est devenu international tout d'un coup, alors que jusqu'à présent, il était régional. Toutes les crises précédentes étaient des crises qu'on peut qualifier de régionales, même si elles étaient un peu continentales, on va dire.
Alors, où les Européens vont-ils passer leurs vacances cet été ? À défaut d'un sondage, Maria Fonso a tendu le micro de Carrefour de l'Europe dans le 15e arrondissement de Paris, et il y a comme une unanimité dans les réponses des passants qu'elle a rencontrés.
Vous voulez partir en Espagne, puis finalement, on ne partira pas en Espagne. On restera en France.
On n'avait aucun plan. Dès que le confinement a commencé, on a décidé de rien faire cette année.
On part dans le Var, voilà. Oui. Je devais partir en Afrique du Sud, mais bon, là, c'est pas possible. Mais autrement, non, cette année, c'est en France.
J'ai changé mes plans parce que ça, la situation n'est pas encore très claire. Et donc, j'ai changé mes plans. Voilà, la dernière minute, mais j'ai changé.
Et vous aviez prévu de partir à l'étranger ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'était un peu à l'étranger, en Europe. Hein. Mais bon, là, je pense que je vais rester plus en France. Je vais aller dans ma maison et ça va.
Moi, je reste aussi en France parce que j'allais partir au Maroc. Mais le Maroc, c'est incertain en ce moment. Donc, du coup, il n'a pas ouvert les frontières. Et là, j'y vais au Puy-en-Velay. Et puis dans le sud, vers Narbonne.
Ah oui, c'est sûr, d'habitude je pars à l'étranger. Là, cette année, du coup, en Espagne, au plus loin. Mais on ne sait pas si on va pouvoir passer la frontière, si ça reprend, on ne sait pas.
On ne sait pas si c'est le flou total pour tout le monde, donc du coup, on patiente. Mais là, je pense que je ne partirai pas cette année, du moment que, déjà, pour le travail, on n'a pas repris, donc je ne pense pas, non. Peut-être on va partir à Lille ou à Montpellier, en tous les cas, on va rester sur le territoire, ouais. Je pense.
Moi, je devais partir à Bali en Thaïlande, mais j'ai dû changer mes plans à cause du virus. Du coup, je vais à Biarritz et à Montpellier.
Et bah, moi, de base, je vais aller en Italie et finalement, bah, je vais en Bretagne. C'est pas pareil, voilà.
Alors, évidemment, l'Italie, c'est pas la Bretagne. Bali, c'est pas la Bretagne non plus. Certes, un micro-trottoir n'est pas un sondage, mais j'imagine, Evgenio Vassilikos, que ce que vous venez d'entendre conforte vos inquiétudes.
Oui, tout à fait. Déjà, je suis un peu déçu parce que personne n'avait prévu d'aller en vacances en Grèce, même par le pire. Mais non, oui, je crois que c'est ce qu'on voit un peu dans les réservations aussi pour les mois qui viennent, qui sont très basses en chiffres. Et je crois que ça va être une année très difficile pour le tourisme.
Par exemple, quel est le niveau de réservation que vous avez dans vos hôtels à Athènes ? Un ordre d'idée.
Alors écoutez, déjà les hôtels d'Athènes ont ouvert le 1er juin et à partir du 1er juin, les chiffres étaient en dessous du 10% et maintenant on est légèrement au-dessus du 10% pour le taux d'occupation.
Ce qui veut dire que si on réserve aujourd'hui une chambre d'hôtel à Athènes, on l'aura sans problème.
Oui.
On est loin Exactement. Du surbooking que vos hôtels ont connu par le passé. Les Européens ont bien des raisons de vouloir rester chez eux, des inquiétudes quant à une reprise de vigueur du virus. Il est loin d'avoir été éradiqué. Et bien sûr, une interrogation sur les frontières seront-elles ouvertes à l'aller, mais aussi au retour. Karim Adeli, la fermeture des frontières s'est faite en ordre dispersé. Hein. Chacun gérait ça comme il a pu, dans un chacun pour soi. La réouverture un peu moins, mais tout de même.
Voilà, j'aime beaucoup le « un peu moins ». C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu des relations bilatérales entre certains pays. Je pense par exemple à l'Allemagne et à l'Autriche, qui pensaient un peu contenir notamment la crise. Ils se sont dit « bon, bah, on va réouvrir notre frontière », ce qui posait un vrai problème, notamment de concurrence et de discrimination par rapport aux autres pays. Finalement, les autres pays ont commencé à dire « on va mettre ce qu'on appelle en place un calendrier ». Le calendrier était le suivant, le 15 juin dernier, nous avons eu la réouverture notamment des frontières partout en Europe. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a d'autres pays qui s'activent pour relancer notamment leur tourisme. Je pense à l'économie et notre autre intervenant de la Grèce le dira très mieux que moi, ou l'Italie, etc., parce que ce sont des pays qui vivent, dont le PIB appuie sur ce secteur du tourisme. Donc, après, ce sont aussi, quand on réouvre des frontières, on ne peut pas faire n'importe quoi. Accueillir des touristes, c'est de les mettre en sécurité. Et donc, il y a eu toutes les questions de tests. Et donc, savoir quand on fait le test, est-ce qu'on le fait lorsqu'on arrive dans le pays en question, ou alors avant de partir. Ensuite, il y avait tout le dispositif de quarantaine, parce qu'il faut savoir qu'il y avait par exemple des pays, notamment l'Italie ou la Grèce, qui disaient au départ, on va mettre en... Si vous êtes testé positivement au coronavirus, il y a 40 jours, il y a 14, les fameux 14 jours. Finalement, ça a été enlevé. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, ce qui fait que l'Europe, à un moment, a pris à bras-le-corps cette question pour savoir mais comment et où vont passer leurs vacances les citoyens européens. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé une plateforme numérique pour aider les voyageurs sur comment se doter des bonnes informations pour aller dans tel et tel pays. Cette plateforme, elle s'appelle Reopen EU, donc réouvrons l'Europe, et elle permet de vraiment de redonner confiance à des voyageurs, mais surtout de faire en sorte de aussi redémarrer un tourisme européen qui aujourd'hui a un peu de mal. Parce que dans votre reportage, ce qui est extraordinaire, c'est que on le sent un peu partout en Europe, on a la tendance de relocaliser le tourisme. Chaque citoyen a tendance à rester aujourd'hui dans son propre pays.
Jean-Pierre Masse, c'est un peu compliqué pour les touristes, ce flou que vient d'expliquer Karima Deli dans la réouverture des frontières. On ne sait pas trop si elles sont déjà ouvertes, si elles vont ouvrir bientôt, si elles risquent de refermer en cas de retour de la pandémie. Ça n'aide pas les touristes, les vacanciers à prendre leurs décisions, bien évidemment.
Alors, ça n'aide pas du tout les vacanciers à prendre leurs décisions. Et je trouve que Karima Deli a été un petit peu indulgente sur le rôle de l'Europe et l'ouverture des frontières. Le 15 juin, les pays européens ont ouvert les frontières, sauf la France, qui les a ouverts le 22 juin. Donc les Belges qui sont venus le 15 juin à la frontière française ont été obligés de repartir chez eux du fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer en France. Donc l'Europe est très désordonnée et n'a eu aucune stratégie globale en matière d'ouverture des frontières. Et pire encore, c'est que les frontières intérieures de la France, si on peut parler de cela, ne sont pas ouvertes. Aujourd'hui, on ne peut pas voyager librement dans tous les départements français. La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, qui sont des départements, nécessitent encore, au moins jusqu'au 10 juillet, et on n'a aucune certitude pour la suite, une mise en quarantaine, enfin une mise en septaine, 7 jours de confinement à l'arrivée, ce qui est totalement incompatible avec le tourisme, avec les voyages, avec le voyage d'affaires non plus.
Et on ne parlera pas de la Guyane qui est totalement fermée.
Pour des raisons sanitaires qui s'expliquent, là, en l'occurrence. La Guyane et Mayotte, ça s'explique très bien.
Alors, est-ce que vous, de vos entreprises que vous fédérez, est-ce qu'elles ont modifié leur offre? Est-ce que, par exemple, l'offre de séjour en France, soudain, elle a grandi dans le catalogue des agences de tourisme?
La demande à modifier l'offre, on essaye d'être réactif, mais c'est quand même relativement compliqué parce que pour des Français, passer des vacances en France, ça se fait sans intermédiaire, naturellement sans intermédiaire. Donc il a fallu que l'on redevienne, qu'on rejustifie notre intermédiation, soit en relançant, en faisant de la promotion de régions qu'on avait un petit peu oubliées, soit en essayant de créer des produits, des types de séjours un petit peu particuliers, un petit peu originaux, mais ça ne restera quand même que marginal.
Evgenio Vassilikos, quelqu'un qui veut se rendre en Grèce aujourd'hui, il doit passer un test Covid ou pas? Il arrive les mains dans les poches? Comment ça se passe?
En venant d'Europe, il arrive les mains dans les poches, il passe la frontière. Il peut y avoir un test au hasard, c'est-à-dire il y a quelques tests qui se font à l'aéroport en arrivant, mais ça ne se fait pas à tout le monde. Et après, il peut se rendre dans son hôtel, à sa prochaine destination, parce que pour venir en Grèce, il y a seulement l'aéroport d'Athènes et l'aéroport de Thessalonique qui sont ouverts. À partir du 1er juillet, les aéroports aussi des îles seront ouverts.
Alors Jean-Louis Barou, une des difficultés aussi pour les vacanciers, les touristes qui voudraient se déplacer en Europe, pour l'instant on reste dans le tourisme intra-européen, c'est que les fréquences aériennes, elles sont peu nombreuses.
Les fréquences, sont peu nombreuses parce qu'il y a peu de clients, parce que comme vous avez pu l'entendre dans le reportage, eh bien les clients restent en France, donc voilà. L'aéroport d'Orly va ouvrir demain. Il va ouvrir avec 10% de son trafic habituel, ce qui est extrêmement faible. Tout ça parce que les clients ne se sont pas présentés. Ils ne se sont pas présentés, Jean-Pierre Masse l'a bien dit tout à l'heure, parce que les gens ont peur de franchir la frontière, parce qu'ils ne savent pas très bien ce qui va leur arriver. À vrai dire, les gouvernements européens, et je suis souscrit totalement sur ce qu'il a dit, au lieu de se coordonner, chacun a fait du repli sur soi en disant « mon système est meilleur que celui du voisin ». Et donc, moi, je ne crois pas à ce que fait l'Allemagne, mais je crois à ce que fait la France, et l'Espagne ne croit pas à ce que fait la France, et croit à ce que fait l'Espagne. Et donc, on est dans un système qui est relativement aberrant, où on a créé l'Europe, on a créé un Open Sky, et on ne peut pas l'utiliser.
Oui, mais il faut dire que les frontières, la gestion des frontières nationales reste la compétence des États. Bruxelles ne peut pas dire à Paris, ouvrez votre frontière avec l'Espagne. C'est pas son domaine de compétence. Ça ne peut être que des négociations entre tous les pays. Il y a pas le Bruxelles n'a pas de pouvoir, et je pense que Karima Deli va pas me contredire.
Non, je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est surtout le secteur du tourisme. Il n'existe pas de politique européenne du tourisme. Ça n'existe pas. Et donc, le retour à la réalité après Covid, c'est de nous dire, mais allons-y, créons justement une véritable politique européenne du tourisme. Moi, c'est mon objectif en tant que présidente de la commission transport et tourisme au sein du Parlement européen. La véritable question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on appelle, justement, parce que le retour du réel nous dit, bah, tant mieux, on n'est pas dans le virtuel, le Covid est bien là, on devra vivre avec, mais nous avons une priorité. C'est la question sanitaire, même dans le tourisme. On ne peut pas commencer à créer des clusters là où il n'y en a pas. Je pense notamment, par exemple, à la Grèce, vous voyez. Et donc, notre volonté aujourd'hui, et j'espère que tous les acteurs du tourisme m'entendront et vont venir nous aider enfin, c'est de créer une vraie politique européenne du tourisme. C'est la raison pour laquelle M. Breton a annoncé, avec le Parlement,
un plan Marshall.
Alors, il a annoncé deux choses. Un plan Marshall, et on reviendra sur les questions budgétaires, mais un sommet européen qui va redessiner l'après le coronavirus, doit nous penser sur quel tourisme de demain. Donc, on doit être aussi dans la prospective avec tous les défis sur lesquels nous sommes confrontés. Il aura lieu en septembre, et ce forum européen doit nous permettre aussi de redessiner un cadre global réel sur une politique européenne sur le tourisme.
Pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, Jean-Louis Barrault, le plus extraordinaire et le plus inadéquat et vraiment étonnant, c'est quand même la Grande-Bretagne qui a une situation sanitaire difficile, mais qui impose aux touristes qui viendraient au Royaume-Uni une quarantaine. Bon, alors certes, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais on voit bien là les contradictions.
Si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel pour le transport aérien, bien entendu. Le transport aérien est mondial. Il a été construit mondialement en 1944 et 1945. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a deux organismes essentiels qui sont chargés de le gérer, l'OACI d'un côté et IATA de l'autre. Eux doivent fournir les règles qui permettent aux passagers et aux avions de circuler. Ils se sont réunis pour la première fois dans la troisième semaine de mai.
Peu réactif.
Un retard absolument considérable, une défaillance.
Pour une fois, on peut...
Une défaillance considérable de ces deux organismes.
C'est pas la faute à l'Europe, pour une fois.
L'Europe n'y est absolument pour rien.
Mais sur ce point, sur l'aérien, c'est vrai que nous avons été en avance, puisque moi j'ai piloté le dossier, donc je peux vous le dire. On s'est rendu compte qu'énormément de citoyens européens, par milliers, avaient réservé des avions. Ils ne voulaient plus prendre l'avion. Et donc, nous n'allions pas faire décoller des avions à vide. D'où ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a permis de faire, notamment, de geler l'ensemble des créneaux de ces vols, parce que c'était un peu une aberration économique, mais surtout une aberration écologique de faire voler des avions pour rien. On les a arrêtés jusqu'au mois d'octobre. Et on se rend compte de quoi aujourd'hui? C'est que octobre ne suffira pas. Les citoyens européens ne veulent pas prendre l'avion parce qu'il y a vraiment une peur. Donc nous allons devoir, dans la réglementation, faire en sorte de geler ces créneaux horaires et de repartir sur des créneaux beaucoup plus longs pour pouvoir avoir un secteur qui s'adapte à cette nouvelle demande qui, aujourd'hui, n'est plus dans l'aviation. Et là aussi, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, durant l'émission. Mais que faut-il faire? Parce que le tourisme est là et en même temps... On ne pourra jamais ne pas lier le tourisme sans les questions de mobilité de transport.
Alors avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
En Espagne, le tourisme de proximité retrouve comme partout la côte. L'Espagne, ce n'est pas seulement des plages, c'est aussi des villages pittoresques où il fait bon se reposer. Seulement voilà, dilemme, faut-il profiter des nouveaux vacanciers ou protéger des zones jusque-là épargnées par la pandémie?
Oui, après un confinement particulièrement strict et éprouvant, les Espagnols se prennent à rêver à leur été. Ils n'ont aucune envie, partir de chez eux, respirer un peu d'air pur et savourer une liberté tant attendue. Pour ce faire, les projets de nos voisins ibériques se distinguent, un peu comme partout ailleurs en Europe d'ailleurs, par un changement radical dans la destination envisagée. Oublier la mer, par peur de la promiscuité sur la plage, place au tourisme rural. Ça paraît logique, nous dit El Confidencial, de grands espaces naturels, des villages peu peuplés, des maisons individuelles à louer rien que pour soi. C'est le paradis du déconfinement, la distanciation physique est assurée sans trop d'efforts. Seulement voilà, les habitants des villages ne sont pas forcément très enthousiastes à l'idée de voir affluer des milliers de citadins. En première ligne, les propriétaires de gîtes et de maisons d'hôtes. Et oui, ça peut paraître paradoxal, car les professionnels du tourisme seraient pourtant les premiers bénéficiaires de cette ruée, mais ceux-ci se demandent s'il est bien prudent de rouvrir leurs portes. Prenons Ventura Garcia, par exemple. Il est président de l'Association espagnole du tourisme rural qui fédère 4000 adresses dans tout le pays. Pour lui, le secteur ne veut pas se rendre coupable de l'arrivée du coronavirus dans des régions épargnées, là où vivent d'ailleurs de nombreuses personnes âgées. Derrière son raisonnement, explique El Confidencial, plane le spectre des nombreux décès en maisons de retraite partout dans le pays. Ce dilemme, quasiment insoluble, eh bien, il travaille tout le secteur du tourisme rural, nous dit le site d'information. D'un côté, il y a la peur de faire venir le virus dans des coins d'Espagne jusqu'à que l'a épargné donc, et de l'autre, l'impératif de travailler pour gagner son pain après des mois sans revenus. Dans ce contexte, certains se demandent aussi dans quelle mesure augmenter les prix pour compenser les pertes, mais aussi les surcoûts engendrés par les nouvelles consignes d'hygiène. D'autres s'attendent plutôt à une baisse des prix engendrée par la rude concurrence entre les établissements. Car comme le rappelle El Confidencial, avec un gîte rural qui affiche complet, c'est bien souvent la subsistance de tout un village avec sa boulangerie, son épicerie, son restaurant qui est assuré. Sauf que cet été, un gîte complet, c'est aussi un risque pour le village. Dans nos campagnes, conclut le site internet madrilène, c'est l'impasse.
Merci Sacha Michel, courrier international, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Evgenio Vasilikos, ce que vient de nous conter Sacha Michel, c'est un peu la situation en Grèce. Il y a quelques jours, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a lancé une campagne de séduction. Il s'est rendu à Santorin pour expliquer au monde entier, et d'abord aux Européens, que la Grèce était ouverte au tourisme, qu'il fallait venir. Mais Santorin, c'est un petit village aussi, où il n'y a eu aucun cas de Covid, aucun cas. Et évidemment, s'il y a des touristes, eh bien, ça peut remettre en cause cet équilibre sanitaire très très fragile. Et on se doute bien que l'hôpital de Santorin, c'est un tout petit hôpital. Voilà. Donc il y a cette problématique aussi en Grèce, j'imagine.
Tout à fait. Et vous savez, en Grèce, vous savez très bien qu'on a énormément d'îles. Et je crois qu'on va avoir une redirection de où vont aller les touristes quand ils vont venir en Grèce. On a beaucoup de destinations où il y a de très belles plages, mais c'est pas la peine de rentrer dans un avion ou dans un bateau. On commence à voir que les gens préfèrent ces destinations à d'autres. Mais il y a aussi un petit espoir, je veux dire, que Athènes serait aussi une destination de vacances et pas seulement une île près d'Athènes. Parce que j'ai l'impression que les touristes vont vouloir aussi être près de grands hôpitaux ou être sûrs qu'ils pourront faire face à un éventuel virus.
Oui, alors on peut rappeler quand même que le tourisme en Grèce, c'est 20% du PIB, c'est vraiment essentiel pour le pays qui revient tout doucement après des crises successives, donc les 2-3 années précédentes avaient été très réussies pour le tourisme en Grèce, là il faut s'attendre à un effondrement important, j'ai lu sur les statistiques du gouvernement grec environ 70 à 80% de fréquentation et donc de chiffre d'affaires, de revenus en moins, est-ce qu'il faut s'attendre dans votre pays à des faillites importantes ou pas, ou est-ce que les entreprises sont suffisamment solides, suffisamment résilientes pour résister à cette difficulté, à ce passage, à ce mauvais moment?
Je crois qu'on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir énormément de difficultés. Vous l'avez dit vous-même, on a passé 10 ans de crise. Les 3 ans qui sont passés maintenant sont pas assez pour récupérer toutes les années perdues. Et maintenant, on a à faire face à quelque chose qui est mondial, comme on a dit au début de l'émission. Je crois que ça va être très très difficile. On le voit, il y a énormément d'hôtels qui ont décidé de ne pas ouvrir cette année et qui vont ouvrir directement en 2021. Et j'ai peur qu'on va voir beaucoup d'entreprises fermées. On avait l'année dernière, en 2019, 33 millions de touristes. Cette année, le bon scénario serait qu'on ait autour de 6 millions de touristes.
Oui, une chute évidemment considérable. Alors, le tourisme domestique, le tourisme national, certains pays sont mieux placés que d'autres. C'est évidemment le cas de la France, hein, où les touristes nationaux pourront en partie se substituer aux touristes étrangers. C'est évidemment pas le cas de la Grèce, parce que les touristes grecs ne seront pas en aucun cas suffisamment nombreux pour remplacer les Allemands, les Britanniques, les Français et les autres, bien évidemment.
Non, bien évidemment. Sur les 33 millions que je vous ai dit juste avant, il y a seulement 8% qui sont du tourisme domestique. Donc vous comprenez que c'est un très petit chiffre. Et avec les difficultés économiques de cette année aussi pour le potentiel touriste.
Jean-Pierre Masque, est-ce que ce tourisme local qui sera très en vogue cette année, c'est selon vous une réaction à court terme ou pas ?
Très difficile de savoir. On essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir, mais cette année, ce qui est sûr, c'est que les Français passeront les vacances en France. Chaque pays, 9 sur 10, on vient de faire une enquête à l'Institut BVA, qui nous dit que 9 Français sur 10 qui avaient l'intention de partir en vacances disent qu'ils passeront les vacances en France, alors que d'habitude, ils étaient 6,5 sur 10, donc taux plus important. Et chaque pays essaye de conserver ses touristes chez lui. On a beaucoup plus d'atouts pour conserver les touristes en France qu'en a l'Allemagne ou qu'en a la Grande-Bretagne. Bien évidemment, faire du balnéaire l'été en Allemagne, c'est un petit peu compliqué. En Autriche, c'est impossible. Mais on assiste à ce mouvement-là. Est-ce qu'il sera à long terme ou à moyen terme ou à court terme? Je ne sais pas. Il est possible que si la crise sanitaire se termine, on ait l'an prochain vraiment encore plus envie de voyager à l'étranger, de reprendre les vieilles habitudes, ou les bonnes ou les mauvaises habitudes, de partir à l'étranger. C'est très 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 difficile à déterminer, parce que le tourisme a traversé déjà des crises sanitaires. Ce n'est pas la première. Vous les connaissez, la grippe aviaire, H1N1, le chikungunya, la dengue, Ebola, et d'autres encore. Mais c'est la première qui est totalement mondiale, qui touche tous les pays en même temps. Et c'est la première fois, comme le faisait Karim Adeli tout à l'heure, que l'on parle en matière de tourisme de santé publique. On ne parle pas simplement de protection sanitaire dans telle ou telle destination, mais on associe le tourisme à la santé publique avec une réaction que vous avez très bien décrite. C'est qu'on avait dans certaines destinations une réaction d'hostilité au tourisme, la tourismophobie, conséquence du surtourisme. Maintenant, dans certaines destinations, et notamment dans les îles, on a peur du tourisme. C'est un réflexe tout à fait nouveau. Et quand on a peur du tourisme quelque part, ça incite les touristes à rester chez eux, à ne pas affronter la peur de l'autre. Sur la durée du mouvement, je ne sais pas.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, le tourisme en Europe, tout réinventer ou pas? Nous sommes avec Karim Adeli, eurodéputé Europe Écologie Les Verts et président de la commission Transport et Tourisme du Parlement européen, avec Jean-Louis Barrou, président d'APG, avec Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, et avec Evgenio Vassilikos, secrétaire général de l'association des hôteliers d'Athènes, en ligne d'Athènes, bien évidemment. Alors, Jean-Pierre Masse commençait évidemment à évoquer le sujet de cette deuxième partie de l'émission. Au-delà des difficultés du moment, le Covid-19 va-t-il faire évoluer les pratiques touristiques ou pas? Est-ce que la mentalité des touristes va changer ou pas? Karim Adeli, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, mais totalement. Aujourd'hui, nous allons passer un peu de notre façon de consommer du voyage, parce que nous avons consommé énormément du voyage, et à un voyage qui va être beaucoup plus... entre guillemets, responsable de proximité, ça veut dire quoi? On va repenser le véritable voyage selon la proximité. Ça, c'est totalement nouveau. D'où, justement, des destinations. Et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, notre intervenant précédent, il dit, aujourd'hui, il y a des villes qui ont peur du tourisme, mais qui engagent des mesures pour limiter. Ça, c'est totalement.
On est dans une contradiction extraordinaire.
Totalement.
Il nous faut des touristes pour vivre, mais en même temps, on craint de mourir s'il y a trop de touristes.
Il y a ça. Par exemple, je donne l'exemple Venise. Venise est une ville qui reçoit par an, alors que c'est très petit, hein, 33 millions.
Alors, en fait, j'avais lu le chiffre et je n'y ai pas cru. Je me suis dit, ça doit être
une erreur. 33 millions de touristes.
Voilà. 60 000 habitants à Venise.
Voilà. Ce qui est énorme. Et ensuite de ça, ils ont eu, malheureusement pour eux, des catastrophes. C'est-à-dire, on se souvient de ce bateau de croisière qui a failli, justement, faire écrouler cette jetée, etc. Et donc, à un moment, les villes elles-mêmes vont prendre des mesures. Et là, par exemple, Venise et d'autres villes en Europe disent, on veut un plafond de touristes.
Mais c'est pas nouveau, ça fait déjà 2 ou 3 ans.
Voilà.
C'est pas dû au Covid.
Oui, mais en même temps, le Covid renforce ça. Et moi, je crois que c'est ça qui va être très intéressant avec l'ensemble des acteurs du tourisme, de nous dire, on est passé justement à un désir toujours de plus loin, de toujours d'immédiateté, de toujours avoir cette facilité, à revenir à quel type de tourisme. Et moi, je crois que nous allons rentrer dans un tourisme qui est beaucoup plus lent, on va rester plus longtemps, on va découvrir notamment des écosystèmes, parce qu'on parle d'écotourisme aujourd'hui, et l'écotourisme, la première priorité, ça va être de respecter la nature. Ça, c'est un grand moment qui va être mis en œuvre dans les années à venir, le problème de fond, et ça, c'est l'accessibilité à ce tourisme. Tout le monde n'a pas accès à l'écotourisme. Donc, il va falloir aussi que nous, en tant que législateurs et en tant que, un peu, entre guillemets, entre que prospective, en tant que responsable de la prospective, c'est quoi le tourisme de demain? Qu'est-ce qu'on appelle du tourisme de proximité? Qu'est-ce qu'on appelle du tourisme durable? Et là, il va falloir le définir avec les acteurs en termes de nouvelles indicateurs, par exemple.
Alors, c'est quoi le tourisme de demain, Jean-Louis Barrault? C'est quoi le transport aérien de demain? Vous aviez sorti, il y a 10 ans, un livre qui s'appelle « Compagnie aérienne, la faillite du modèle ». C'est pas du tout la même histoire. C'était l'idée que les compagnies traditionnelles allaient subir de grandes concurrences avec les compagnies low cost, qui évidemment, Ryanair, EasyJet, Vueling et les autres, sont évidemment très très présentes sur le secteur, et même le dominent aujourd'hui pour ce qui est du court et du moyen courrier. Cette nouvelle faillite du modèle, quelle va-t-elle être dans le transport aérien de demain?
Ce qu'on peut dire, c'est que le transport aérien allait devant un mur, de toute façon. Une croissance de moyenne de 5% par an depuis 1945, appliquée maintenant à des volumes de 4,5 milliards de passagers, 5% par an, c'est 300 millions de passagers supplémentaires. Donc on était un peu en bout de course. Et tout le monde courait de plus en plus vite. C'est-à-dire que les compagnies aériennes commandaient de plus en plus d'avions, de façon à être présents sur les chaînes de montage et ne pas avoir à attendre que le concurrent en prenne avant. Les constructeurs construisaient des tas d'avions nouveaux, etc. Les appareils anciens n'étaient pas si anciens que ça. Maintenant, on a des avions qui peuvent faire 150 000 heures de vol. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit le meilleur. La recherche, le transport aérien a fait beaucoup de travail, c'est pas tellement connu, sur le plan écologique. Il a pris la conscience qu'il ne pouvait plus continuer à s'exonérer de la pollution. Et donc, il a fait de gros efforts, et il va continuer à en faire de gros efforts. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que, dans le futur, la croissance sera plus de 5%. C'est parfaitement clair. Il va falloir remonter. Deuxièmement, les avions existent. Il y a actuellement 14 000 avions qui sont au sol. Je rappelle qu'un avion, c'est 100 millions de dollars. Et donc, ça fait une somme tout à fait considérable qui est au sol. Et ça veut dire que petit à petit, le transport aérien devra se vendre plus cher. Cette course folle aux tarifs les plus bas, qui ne correspondent à rien, qui sont des tarifs de la vente à perte. Ça fait des années que je dis que c'est un vrai scandale. Ça met dans l'esprit des gens des réalités qui n'est pas la bonne.
Ce que vous voulez dire, c'est que 50 euros aller-retour pour aller à Paris-Lisbonne, ça n'a aucun sens.
C'est pire que ça. Les compagnies aériennes, je veux même pas la citer, mais compagnies aériennes, fait de la pub. Faut faire du transatlantique à 350 euros. Ils achètent l'espace pour vendre quelque chose qui ne paye le pétrole que jusqu'en Irlande. Ça n'est pas raisonnable. Et donc, il va falloir revenir à des choses plus raisonnables, le transport aérien, eh bien, il va être souvent plus cher. Et alors, pourquoi? Parce que ça coûte plus cher.
Est-ce que ça remet en cause le modèle des low cost, Ryanair, EasyJet?
Il y a deux modèles. Le low cost a sa valeur, ça permet à des gens qui ont relativement des moyens limités d'accéder au transport aérien. Mais là où il y a eu le gros péché, c'est que les compagnies traditionnelles, les legacy airlines, ont voulu imiter les low cost. Ils n'avaient pas des prix bas, mais des coûts de revient bas, mais ils ont voulu avoir des prix de vente bas. Et au total, pour continuer à exister, il fallait garnir de plus en plus des avions. Vous savez, beaucoup de compagnies aériennes ont un coefficient de remplissage moyen annuel au-dessus de 80%. Ça n'est simplement pas raisonnable. Donc, je pense que ce coup de massue qui tombe sur le transport aérien va conduire les uns et les autres à repenser l'ensemble de leur stratégie.
Karim Adeli.
Il va falloir revoir beaucoup de choses dans le secteur de l'aviation. Vous l'avez dit, c'est un secteur qui augmente avant le coronavirus de 10% par an. C'est énorme.
Plus à 5.
Nous, on a regardé les derniers chiffres, c'est 10%. Mais 10%, pas seulement de l'année dernière, mais depuis plusieurs années. Malheureusement pour ce secteur, c'est qu'ils ont aussi été dépassés par ce que vous appelez les low cost. Et les low cost, eux, c'est la loi. Ils n'ont aucun critère. C'est-à-dire, sur le volet social, on voit les salariés qui sont dans des conditions exceptionnelles.
Ryanair est un nouvel esclavagiste.
Voilà. Mais c'est un peu ça. Et ensuite, sur les questions écologiques, c'est pas leur problème. Donc, nous, en tant que législateurs, ça va être très très clair. C'est-à-dire que dans les années qui arrivent, le secteur de l'aviation, il y aura moins de vols. Il y aura moins de vols parce qu'on n'a pas de planète. Et si on continue comme ça, vous l'avez dit, je crois qu'on va dans le mur. Donc, première chose, c'est limiter. Et donc, trouver les alternatives. Ça tombe bien. Il y a le train de nuit qui est en train, notamment en Europe, de reprendre son
rôle. Sais que c'est votre dada, Karim Adeli, le train de nuit.
Si je puis me permettre.
Allez-y.
Il faut laisser les clients choisir.
Alors, justement.
Le client qui veut choisir le train de nuit peut choisir le train de nuit. Celui qui veut choisir l'avion, il peut choisir l'avion. Il ne faut pas lui supprimer un mode de transport. Alors, ça n'est pas raisonnable.
Alors, le train de nuit, il faut faire attention. Le train de nuit peut remplacer un avion entre 600 jusqu'à 1800 km. On peut le faire. Et au fait, le truc extraordinaire, c'est que les gens demandent. Il y a tout un mouvement en Europe où les gens ne veulent plus prendre l'avion. Parce qu'il y a cette prise de conscience écologique et il y a aussi cette volonté de dire on veut aller plus lentement. Donc ça, c'est des leviers d'action sur lesquels nous allons travailler. Sur le secteur de l'aviation, si on réduit notamment ce secteur de l'aviation, il va falloir aussi former. Parce que malheureusement, il y aura des pertes d'emplois. La raison pour laquelle, lorsque vous relancez l'activité du ferroviaire, c'est tout de suite qu'il faut reconvertir. Et ensuite, il faudra retravailler sur ce qu'on appelle la recherche et développement. Ça, c'est un drame un peu européen. Vous avez dit, l'aviation a fait énormément d'efforts. Mais l'aviation a fait certes des efforts, mais pas encore assez.
Personne ne fait assez d'efforts.
Attendez.
C'est pas le bon sujet. Où on commence à faire des efforts, et on continue à en faire, mais on peut jamais dire, et on en a jamais fait assez. C'est un peu excessif. Que chacun fasse ses efforts, et que les clients après fassent leur choix. Choisissent l'aviation ne me plaît plus. Je prends le train, très bien. Par contre, on ne peut pas dire j'arrête l'aviation.
Mais de toute manière, vous ne pouvez pas leur donner le choix s'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que sur plein de
le train de nuit n'existe pratiquement pas aujourd'hui.
Voilà, où il n'y a pas de train, où c'est pas rénové, etc. Donc il faut, je pense, arrêter de dire il n'y a pas le choix.
Le train est paradoxalement assez cher par rapport à l'avion.
C'est la véritable question sur laquelle il va falloir travailler. D'abord, le train, il faut les questions de rénovation, les questions de matériel et ensuite les questions de prix et de coût. On voit que le train est beaucoup plus cher qu'un low cost, ce qui n'est pas normal parce que même en termes d'émissions, je rappelle que le train émet 10 fois moins qu'un avion, par exemple. Vous voyez ? Donc là aussi, il va falloir travailler sur le basculement de ce secteur de l'aviation vers un autre secteur. Je ne dis pas qu'il faut les mettre en concurrence puisque l'avion existera toujours.
Il faut offrir le choix.
Mais sur certaines destinations, même en interne d'un pays, moi je peux vous le dire, je vais à Strasbourg 4 jours par mois et je comprends pas qu'il y a des gens qui font du Paris-Strasbourg en avion, alors que le train... Maintenant,
il n'y a plus de Paris-Strasbourg.
Oui, oui, non, maintenant, il n'y en a plus.
Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas.
Maintenant, il n'y en a plus. Alors, mais il y a plein de destinations sur lesquelles on pourrait justement supprimer des vols internes qui sont écologiquement
très dur. Ministre dire on va soutenir Air France à condition qu'Air France arrête des vols entre moins de 2h30. Et ces vols-là ne seront pas repris par quelqu'un d'autre. C'est scandaleux. C'est rigoureusement scandaleux. C'est couper un choix qui est naturel, nécessaire au client. Je rajoute qu'il y a en Europe une règle qui s'appelle l'Open Sky et qui est une règle européenne.
Alors, il faut revenir. Et je vais terminer par là.
On va donner la parole à Jean-Pierre Masse.
Oui, non, mais moi, je pense que c'est nécessaire lorsque l'alternative est là. Il faut renforcer l'alternative. Et je suis désolée, moi, je suis écologiste. Il faut réduire nos gaz à effet de serre et de l'aviation a une part importante. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'on est en train de mettre au niveau européen, et ça, c'est un véritable levier, ce qu'on appelle le ciel unique européen. C'est-à-dire, on va optimiser l'ensemble des flux, notamment de l'aviation, qui pourrait aussi nous faire réduire. C'est un peu les autoroutes de la mer, mais dans le ciel. Et c'est un véritable levier. C'est un scandale. Ça fait 20 ans qu'on le demande. Oui. Ça fait 3 ans que je me bats. J'espère qu'on va y arriver.
Oui. Alors, Jean-Pierre Masse, il y a le transport aérien qui va être remis en cause, on le comprend bien, mais il y a aussi le tourisme. Et par exemple, le tourisme de masse. Quel est l'avenir du tourisme de masse? Ces grands ensembles, ces hôtels qui font 500 000 chambres, avec le système all-inclusive, ces buffets géants où on mange à volonté et où on grossit un peu trop. Quel est l'avenir de ce tourisme? Est-ce qu'il est condamné?
Il y a deux cibles sur lesquelles il est facile de tirer. C'est le transport aérien en raison de sa contribution au réchauffement climatique. Elle est réelle, mais ce n'est pas le plus grand contributeur au réchauffement climatique et de très loin. Beaucoup moins de contribution que le transport routier et de très loin. Mais il n'empêche que le transport aérien doit assumer ses responsabilités et absorber le CO2 qu'il produit. Et la seconde cible, qui est facile également, c'est ce que l'on appelle le tourisme de masse. Derrière le tourisme de masse, on met n'importe quoi. On peut mettre la tourismophobie, on peut mettre les paquebots dont on parlait tout à l'heure devant le Grand Canal à Venise. Et là, c'est pas un problème de tourisme de masse, c'est un problème de réglementation et de régulation.
Mais c'est aussi peut-être la cupidité des Vénitiens qui accueillent des paquebots qu'ils ne devraient pas accueillir.
C'est absolument ça. Les responsables, ce sont les autorités italiennes, vénitiennes ou régionales, qui permettent à ces paquebots de passer dans le Grand Canal. Ce ne sont pas ni les croisiéristes, ni les passagers des croisières, les responsables. Ce sont les autorités vénitiennes. Le tourisme de masse, ensuite... Donc
vous êtes pour plus de réglementation.
Oui,
vous êtes pour que l'État et les pouvoirs publics interviennent davantage.
Mais quand Karim Adeli parle d'un plan européen du tourisme, d'une vision européenne du tourisme, je suis totalement d'accord avec elle. Il n'y a pas de vision nationale du tourisme. Il n'y a que la promotion qui est nationale. Mais la vision, le tourisme en tant qu'élément de l'aménagement du territoire en France, il faut remonter à Pompidou pour en entendre parler, hein, et avec le plan Racine. Donc il n'y a pas d'aménagement.
Il y avait très peu de touristes à l'époque de Pompidou.
Hein. Et il n'y avait pas beaucoup de touristes. Donc, quant au tourisme de masse, il faut le mettre en balance le droit aux vacances. Le droit aux vacances, c'est quelque chose qui s'est développé, et en matière d'acquisition de droits, on ne revient pas en arrière. Et ce droit aux vacances s'est développé en même temps que s'est développé le temps de non-travail, le temps libre, la réduction du temps de travail et l'allongement de la durée de la vie. Donc, on ne reviendra pas en arrière. Et il y a des Français, des Européens qui ont le droit aux vacances qu'ils veulent. S'ils veulent aller en Tunisie parce qu'ils bossent comme des ânes toute l'année dans un climat, dans un environnement qui n'est pas très agréable, s'ils veulent aller en Tunisie, passer 15 jours sur la plage avec les enfants dans un club et eux se reposant, ils y ont droit. Le tourisme de masse, ce n'est pas quelque chose qu'il faut combattre et on ne migrera pas le tourisme de masse vers un tourisme écologique, un tourisme responsable, ce que je souhaite.
Alors ça veut dire que le tourisme responsable, écologique, c'est un tourisme de niche, qui ne restera qu'un tourisme de niche pour vous ?
Non, ça reste. Alors c'est un tourisme de niche, mais l'écologie doit traverser tout le monde du tourisme en permanence. Je ne crois pas au ghetto écologique du tourisme, comme je ne crois pas au ghetto politique du tourisme, mais il doit y avoir la notion de respect de l'environnement, de respect de la nature, de respect des populations, des traditions, des cultures. C'est quelque chose qui doit traverser tous les comportements touristiques de façon permanente.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, hein, si je vous écoute bien, Jean-Pierre Masse.
Mais ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que, mais il faut définir ces critères, et notamment dans ce tourisme durable. Et là aussi, on a un véritable problème. Pourquoi ? Parce que vous dites, mais le problème, c'est pas le surtourisme. Bah, le surtourisme n'a pris en compte aucun indicateur. C'est pour ça qu'on a du surtourisme. Là, vous avez raison, et vous allez nous aider, c'est très bien. Il est grand temps de réguler. Réguler, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Lorsque je regarde, par exemple, les plateformes numériques du Airbnb, qui aujourd'hui chassent parfois des populations locales, ou alors sont directement en confrontation avec des hôteliers locaux c'est extraordinaire. Je pense à des pays où moi j'ai eu l'occasion d'y aller, mais l'Espagne, où vous avez des populations locales qui vous racontent leur culture, qui prennent le temps de la cuisine, de la gastronomie, qui vous racontent. Tout ça explose au détriment de cette plateforme parce qu'il n'y a qu'un critère, c'est moins cher, c'est la rentabilité, etc. Donc, à un moment, moi, mon rôle de législateur, c'est très simple, c'est d'arrêter que ces plateformes, notamment Airbnb, elles doivent contribuer à l'économie du tourisme parce que pour l'instant, elles ne paient absolument rien, ce qui est un scandale. Et la deuxième chose, c'est aussi de valoriser les acteurs locaux qui font des choses extraordinaires au détriment de cette consommation de masse qui, un, détruit la planète et deux, n'apporte absolument rien pour les populations locales.
Evgeny Vassilikos, quand vous entendez tout ce qu'on a dit là, Jean-Louis Barrou, Karim Adeli et Jean-Pierre Masse, comment vous voyez un petit peu les choses en Grèce, qui est évidemment à la fois un tourisme de grande qualité, un archéologique, un tourisme culturel, mais aussi un tourisme de masse. Le tourisme de demain en Grèce, il va s'équilibrer comment? Quelle est la réflexion des responsables du tourisme en Grèce?
Écoutez, nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on demande que le tourisme en Grèce ne devrait pas faire des records de quantité, mais des records de qualité. D'être arrivé à 33 millions de touristes, ça n'aide pas. Je suis très content d'entendre l'eurodéputée Madame Deli dire que Airbnb fait du mal à des villes et à des centres. Athènes a énormément souffert.
Toutes les grandes villes, de manière générale, Athènes, Barcelone, Paris, hein, toutes les grandes capitales,
oui,
les grandes
villes. C'est ça. Mais Athènes, avec le tourisme qu'on a depuis certaines années, on était dans les trois premières régions de croissance de Airbnb pendant les dernières cinq années. Donc, beaucoup de monde a perdu son appartement parce que le propriétaire disait « allez trouver autre chose ». Moi, je vais le donner à Airbnb.
Évidemment, c'est donc plus rentable de louer Airbnb qu'à louer à un Athénien qui travaille sur place, par définition.
Tout à fait. Mais alors là, ce que nous, on pose comme hôtelier, comme gros problème, aujourd'hui, les hôtels réouvrent petit à petit avec des protocoles d'hygiène, alors qu'un appartement Airbnb n'a aucun protocole d'hygiène. C'est la même chose pour beaucoup de pays. Et je crois que c'est le moment où il faut mettre en place des protocoles d'hygiène, parce que on dit pas qu'il faut pas que ça existe, ce sort de plateforme. Elles peuvent exister, c'est pour un certain tourisme, c'est pas pour la masse, mais il faut payer des taxes, comme moi je paye mes taxes, il faut avoir les protocoles d'hygiène comme moi j'ai les protocoles d'hygiène maintenant dans mes hôtels, et il faut avoir des règles. On peut pas avoir comme ça des immeubles entiers qui ouvrent et qui sont entièrement données à des plateformes comme celle qu'on a dit avant.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vais laisser le mot de la fin à Karim Adeli, à condition qu'elle soit très brève. On comprend quand même que ce Covid-19, c'est un déclencheur d'une remise en cause d'une certaine forme de tourisme et qu'il va se passer quelque chose. Très bref.
Très bref, c'est-à-dire que le retour au réel nous permet de faire preuve d'intelligence collective et de réinventer ce tourisme avec un avenir aussi de retrouver nos territoires parce qu'on les connaît pas. On croit toujours que l'exotisme, c'est à l'autre bout de la terre et parfois c'est en bas de chez nous.
L'aventure en bas de chez soi. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et Sacha Mitchell du Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter cette émission et vous abonner à Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, on reste en contact via Facebook et Twitter. Et oui, Daniel Desescalos, que vous soyez en Europe ou ailleurs ou dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.